l'ego du raid sans l'intérêt du raid, ça sert pas forcément. Enfin, ça a moins d'impact en tout cas. Voilà. Il y a une belle image là-dessus. C'est a priori, c'est ce que disait Al Capone. Alors, il faut toujours se méfier. C'est que en étant poli, on obtient beaucoup de choses. En étant poli et armé, on obtient tout. Voilà. Donc voilà, c'est une définition un petit peu courte, mais c'est qui est pas, voilà, que je trouve qui représente assez là. Le boulot qu'on fait, en tout cas la complémentarité avec l'Inter.
Bien vu dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous partons à la rencontre du RAID, l'unité d'élite de la police nationale. Et nous allons plus particulièrement nous intéresser à l'un des métiers exercés par certains de ses opérateurs, à savoir celui du négociateur. Le commandant divisionnaire Benoît, chef des négociateurs du RAID, nous présente cette spécialité et partagera quelques conseils très utiles dans ce domaine. Cet épisode fait partie d'une mini-série de 5 épisodes exclusifs consacrés au RAID que vous pouvez écouter dans votre espace abonné premium. Pour rejoindre cet espace, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site internet defense-zone.com et cliquer sur l'onglet Premium en haut à droite. Une fois abonné, vous aurez accès à tout notre contenu exclusif, les archives numériques de notre magazine, et vous recevrez les prochains numéros de la version papier de notre magazine directement dans votre boîte aux lettres. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes toujours à Bièvre, au siège du RAID, avec Benoît, commandant divisionnaire et négociateur au RAID.
Négociateur au RAID, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre parcours?
Bien sûr, moi donc voilà, Benoît, j'ai 59 ans. Je suis à la négo et chef du groupe négo depuis 4 ans maintenant. Auparavant, j'ai occupé d'autres fonctions au sein du RAID, hein, notamment aux relations internationales et à la cellule NRBC. Et autrement, l'essentiel de mon parcours, c'est un parcours police judiciaire. Voilà, donc j'ai commencé en sécurité publique pendant 3-4 ans en Seine-Maritime. Et ensuite, j'ai intégré le SRPJ de Versailles à l'époque, en 90. J'y suis resté jusqu'en 2006. Donc j'ai fait successivement la brigade criminelle et la brigade de recherche, d'enquête et de coordination, qui est actuellement donc, la BRI Versailles. Ensuite, je suis parti quelques années à la BRI nationale, à Nanterre, aider à monter la structure. Et ensuite, je suis parti 2 ans à l'étranger, comme attaché de sécurité intérieure, voilà, pour l'Estonie et la Finlande.
D'accord.
Voilà mon parcours.
Et pourquoi ce virage vers la négociation?
C'est pas un virage, en fin de compte. Je pense que c'est une progression pour moi, certainement, mais que c'est plutôt dans le droit fil de ce que j'ai déjà fait. Parce qu'avec toute cette culture de sécurité publique, de police judiciaire, cette culture du contact avec les voyous, quelque part, c'est quelque chose dont je sais me servir maintenant dans le cadre de la négociation.
D'accord. Combien vous êtes de négociateurs au sein du RAID?
Au sein du RAID, donc à l'échelon central, on est 6 négociateurs. Et au niveau national, en comptant donc nos 13 antennes, hein, la France métropolitaine et puis les 3 antennes ultramarines, on est en gros entre 70 et 80 négociateurs. D'accord. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un système qui est unique en France, ce système-là. Dans le sens où qu'on soit négociateur en Nouvelle-Calédonie, à Marseille, à Lille ou à l'échelon central, on est formé de la même façon. Exactement de la même façon, donc on a les mêmes compétences, ce qui fait sens puisque quelle que soit l'antenne RAID ou à laquelle on appartient, on est confronté aux mêmes missions. Voilà. Donc quand on parle de schéma national d'intervention, quand on parle de répartition des forces d'intervention sur le territoire national, pour le RAID ça fait vraiment sens, parce qu'encore une fois les capacités qui sont détenues à l'échelon central, vous les retrouvez en antenne. De façon un petit peu différente, parce qu'à l'échelon central, on est donc négociateur à plein temps, on va dire. Et en antenne, les gars sont opérateurs et négociateurs. Enfin, généralement, dans le cours de l'inter, c'est négociateur et opérateur.
Il ne peut pas y avoir, comme pour les médecins, des gens extérieurs, des contractuels en tant que négociateurs?
Non. Non.
Qu'en interne, opérateur ou...
Ouais. Le souci, c'est que déjà pour être. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il a été. Il a été plus ou moins suggéré qu'on pourrait peut-être remplacer les négociateurs police ou peut-être gendarmerie par des psychologues. Voilà. Sauf que ce n'est pas du tout, le même métier. Et nous, on part du principe que sur une situation de crise donnée, sur un trouble majeur à l'ordre public, seuls les policiers vont comprendre exactement la mécanique des choses. Voilà. Quelqu'un de venant de l'extérieur avec une culture différente, bah certes, être peut-être beaucoup plus sensible au côté psychologique. Quoi. Sauf que ça fait partie du cadre général de résolution, on va dire, de la crise, mais c'est en aucun cas le point central. En aucun cas le point central. Voilà. Et un flic sera beaucoup plus, beaucoup plus à même de détecter un petit peu, déjà de synchroniser quoi, hein, au niveau de la façon de parler. On sera beaucoup plus à même de synchroniser avec la personne qui est en crise. Tout simplement parce qu'on a l'expérience des gens qui sont en crise.
Mmh. Et vous vous servez aussi de votre expérience personnelle pour essayer de comprendre comment fonctionne la personne en face de vous, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je vous parlais du fait que la négo, pour moi, c'est plus une espèce de suite logique, quoi. Bon, la logique, quelque part, c'est au chef de le dire. Hein. Mais c'est plus une suite dans ce que j'ai fait que c'est en aucun cas un virage, quoi. Bon, c'est dans la continuité.
Et c'est quelque chose qui vous attirait personnellement ? Vous vous êtes dit à un moment donné dans votre carrière, j'aimerais bien faire ça ?
Oui, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé parce que déjà, bah, culturellement, quand on vient de police judiciaire et quand on est un peu ancien, quoi, ce qui est quand même largement mon cas, c'est une culture qui existait fortement à l'époque. Quoi, hein. Voilà. Donc sans revenir à Clémenceau, mais. Voilà, il y avait un contact direct avec le voyou, puisqu'il n'y avait pas le filtre de l'avocat, il n'y avait pas le filtre de la caméra. On était beaucoup plus dans un rapport humain classique, quoi.
Très concrètement, le métier de négociateur, sa fonction au sein de la colonne d'assaut, c'est quoi ? C'est d'arrêter la crise et c'est de convaincre la personne de se rendre ?
Il y a deux aspects en fin de compte. Il y a deux aspects. La reddition, c'est l'objectif ultime du négociateur. Au niveau du raid, ça reste bien sûr un objectif, mais notre mission, elle peut être assez diverse, quoi. Elle peut être assez diverse. On est d'abord là pour stabiliser la crise, avant de parler de résolution, de reddition. On parle d'abord de stabilisation de la crise.
Et est-ce qu'il y a aussi une logique de prendre du renseignement pour favoriser aussi l'intervention à proprement parler ?
C'est un tout. C'est un tout, la négociation. C'est un tout. Si on parle de prise de renseignement, il est sûr que selon la façon dont la personne en crise va s'adresser à nous, on sera à même de dire au chef de l'inter, voilà, il est plutôt dans telle ou telle phase. Et donc, ça l'aidera lui à prendre sa décision. Il faut savoir que sur une intervention type, hein, là je ne vous parle pas d'intervention terreau, mais sur une intervention type, le chef du RAID, il a deux options en gros. Il a ou une option offensive, si la situation le nécessite. Voilà, donc en gros, si on est en prise avec quelqu'un qui est en train de tuer une autre personne, ou si on est en prise sur une tuerie de masse, il est sûr que la priorité va être donnée à l'intervention. Voilà. Il faut faire cesser absolument le trouble. Si on est sur une crise beaucoup plus classique, où le forcené, après être entré en crise, s'est retranché chez lui avec des armes, il n'y a pas de menace forcément directe, il n'a pas forcément d'otage. Bon, la priorité, là, elle va être donnée à la négociation de façon, encore une fois, à stabiliser dans un premier temps la crise, essayer de rentrer en contact, voir si on peut travailler sur une vraie communication. Et puis, à partir de là, en fonction de l'évolution des situations, il y a un compte-rendu qui est fait de façon très, très régulière au chef de crise, des points d'étape qui sont réguliers. Et à partir de là, il prend sa décision. Donc, si on s'aperçoit que... On va dire la, la possibilité d'une reddition est vraiment quelque chose qu'on peut envisager, ben on va continuer sur cette lancée-là. Si on s'aperçoit que le gars est fermé et que la négo va pas marcher, ben on va contribuer toujours à la résolution de la crise, mais en aucun cas on sera véritablement déterminant sur le truc, quoi. On peut basculer sur une phase d'assaut à ce moment-là, quoi. Voilà. C'est le chef qui il a ses outils et il s'en sert à sa convenance.
D'accord. Et vous, sur le terrain, vous pouvez. Est-ce que vous avez quand même un recours de contester peut-être une décision? C'est-à-dire que si la personne en charge dit on mène l'assaut et vous êtes convaincu qu'en fait c'est pas une bonne idée, est-ce que vous avez quand même un moyen de faire remonter l'information autre qu'en disant moi je suis pas d'accord ou...
Ah, déjà, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Il n'y a pas le chef du RAID, son chef négo ou son représentant négo et le représentant de l'Inter qui s'affrontent à fleur et mouchetée dans le cadre d'une crise. C'est un échange qui est constant entre les trois, on va dire entre les trois parties, enfin entre les deux parties, l'Inter et la négo, hein, avec le chef de crise qui lui est au sommet du triangle et joue un rôle d'arbitre. Donc ça se passe jamais comme ça. Le chef d'Inter comme le chef de crise, ils vont prendre en compte les informations qui leur sont données par la négo, ils vont prendre en compte le déroulé de la négo, ils vont nous demander notre avis sur, en fin de compte, véritablement la faisabilité ou non d'une reddition, hein. Et à partir de là, ils prendront la décision de continuer sur une voie, on va dire, pacifique ou si on passe à l'offensive. Mais il n'y a pas de contestation des décisions parce que chacun se nourrit, en fin de compte, du travail de l'autre. Et on est vraiment... le négo, moi j'ai l'habitude de dire qu'un négo, il n'a pas d'ego. Voilà. On travaille au service de l'unité. Et en fonction des situations qu'on affronte, en fonction des données qui nous parviennent, des renseignements qu'on peut obtenir, de la personnalité du sujet, eh bien on va choisir telle ou telle option. Voilà. Mais moi, je ne suis pas déçu si j'obtiens pas la réédition d'un sujet. Alors, c'est sûr que si je l'obtiens, bah, je suis content. Mais je suis content pour le service, hein, pas pour moi. Et si je l'obtiens pas, si on doit l'interpeller, mais, voilà, j'aurais joué mon rôle dans le dispositif général et ça suffit à mon bonheur. Voilà. Faut savoir aussi que le gars, quand il me parle, il me parle pas parce que je m'appelle Benoît négociateur. Hein. Il me parle parce que je m'appelle Benoît négociateur du RAID. La négo du RAID sans l'Inter du RAID, ça sert pas forcément, enfin ça a moins d'impact en tout cas. Voilà. Il y a une belle image là-dessus, c'est a priori c'est ce que disait Al Capone, alors il faut toujours se méfier. C'est que en étant poli, on obtient beaucoup de choses. En étant poli et armé, on obtient tout. Voilà. Donc voilà, c'est une définition un petit peu courte, mais c'est qui est pas, voilà, que je trouve qui représente assez le boulot qu'on fait, en tout cas la complémentarité avec l'Inter.
À la différence du groupe d'intervention, vous êtes quand même amené peut-être à faire preuve un peu plus d'empathie ou pas du tout quand vous êtes face à une situation, parce que je pense que ça ne doit pas forcément être des situations faciles, vous entendez les histoires de gens qui ne sont pas, même si vous n'êtes pas psychologue ou je veux dire, c'est pas SOS, détresse, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a forcément peut-être, est-ce qu'il n'y a pas une partie de vous qui est forcément à l'écoute de la situation et de la personne, et du coup, est-ce qu'il faut développer une certaine forme d'empathie pour bien faire ce boulot ?
C'est sûr qu'en tant que négo, il vaut mieux être empathique. Voilà. Mais bon, en même temps, voilà, l'empathie, ce n'est pas la sympathie non plus. Voilà. Mais c'est une empathie qui est plutôt naturelle. Et il n'y a pas quelque part, même là, il n'y a pas de grosse différence entre le mec de la négo dont c'est le métier, ou la fille de la négo dont c'est le métier, parce qu'on a aussi une fille chez nous, et les gars de l'Inter. Parce qu'il y a une dimension, moi je parle de ce que je connais, hein, voilà, de la police nationale et du RAID en particulier, il y a une vraie dimension service public dans toutes les unités de la police nationale et au RAID aussi. Et les mecs, ils ont de l'empathie, même s'ils sont dans la colonne, ils ont un boulot super particulier, qu'ils savent super bien faire, ils connaissent à fond leur mission, mais ça leur empêche pas d'avoir parfois de l'empathie sur certains sujets. Parce que c'est sûr qu'on est parfois confronté à des gens, voilà, c'est un peu de façon la nature du métier de policier, mais on est quand même largement confronté à la détresse et à la misère humaine. Et ça résonne aussi chez les gars de l'Inter, même si encore une fois, là, ils font leur mission. Et ils sont centrés dessus. Moi, ça résonne chez moi de façon naturelle aussi, mais je sais aussi où je veux aller. Mon but, c'est pas juste d'écouter la personne me raconter ce qui a pas trop marché dans sa vie ou les différents traumas qu'elle a pu subir. Mon but, c'est de l'amener à autre chose, quoi. Hein, voilà. Donc, je vais utiliser l'empathie, mais encore une fois, moi aussi, je suis sur une phase qui est vachement, qui est technique. La négo, c'est pas juste du bavardage. Autrement, tout le monde pourrait le faire.
Comment vous formez ? Comment sont formés les négociateurs du RAID ?
Déjà, ils sont sélectionnés, les négociateurs du RAID. Donc, on les sélectionne sur des bases qui sont compliquées à percevoir parce qu'encore une fois, voilà, on essaie de juger un petit peu des capacités d'empathie des personnes, de leur capacité aussi à faire le break entre les situations qu'ils vont rencontrer, qui sont forcément compliquées, et le retour à la normale, hein, le retour au service et puis le retour chez soi. Donc il y a d'abord une sélection. À l'issue de cette sélection, les gens intègrent le groupe Négo. Donc ils sont soumis à une période probatoire et ils sont bien sûr formés. Donc on a une formation en interne sur 4 semaines avec un premier module de 15 jours pendant lequel les nouveaux négos vont travailler sur les bases du métier. Parce qu'encore une fois, là, le négo, c'est aussi des techniques. Et un dernier module de 15 jours encore qui est beaucoup plus spécifique, voilà, avec notamment tout un volet terroriste.
D'accord. Historiquement, il y a toujours eu des négociateurs au RAID, ou est-ce que c'est une spécialité qui est arrivée avec le temps et des événements ?
C'est une spécialité qui est arrivée avec le temps. Parce que culturellement en France, comme dans d'autres pays, hein, c'était le chef qui négociait. Alors le chef, c'était pas forcément le chef du RAID. Hein. Ça pouvait être le préfet sur une crise donnée. Mais culturellement, c'était ça. En plus, en France, on a eu la chance d'avoir des grands flics, hein, comme Broussard, par exemple. Et ces gens-là, voilà, dans un contexte qui était particulier, avec un milieu grand banditisme qui était vraiment constitué, des formes de relations qui étaient aussi bien établies. Ces gens-là, voilà, ils ont négocié énormément de crises et ça marchait bien, quoi. Ça marchait bien. Après, on a changé un peu de profil de sujet et là, ça marchait plus trop, quoi. Parce qu'encore une fois, il n'y avait plus de prise puisqu'il n'y avait pas quelque part de culture commune, voilà. Un gros voyou, qu'on soit flic ou voyou, voilà, on vivait pas de la même façon, mais en tout cas, chacun connaissait les valeurs de l'autre, quoi. Et on pouvait travailler là-dessus. Avec un déséquilibré, c'est quand même un peu plus compliqué, quoi. Voilà. Donc à partir pour le RAID, la naissance du groupe Négo, elle se situe après Neuilly, après l'affaire Human Bomb. Voilà. Parce qu'on n'est pas trop, on a un embryon de négociation à l'époque, mais qui n'est pas vraiment constitué. Donc cet embryon, donc en l'occurrence le commandant qui travaillait un peu là-dessus, il s'est surtout intéressé aux familles. Il a fait le lien, il l'a bien fait avec les familles des enfants qui étaient retenus. Mais après la négo en elle-même, elle a été gérée. Bon, en plus il y avait un contexte qui était un petit peu particulier, donc elle a été gérée aussi par des policiers, par des politiques, de façon assez diverse. Hein. Et à partir de là, on a senti qu'il nous manquait quelque chose. Donc le service a travaillé dessus et le groupe Négo est né en tant que tel en 97. Voilà.
D'accord. Et les négociateurs ne peuvent être que des opérateurs qui ont déjà eu une expérience d'opérateur ou
non,
pas forcément ?
Non, pas forcément. Non. On a des négociateurs qui viennent de l'opérationnel, enfin de l'opérationnel, du groupe d'intervention. On a aussi des gens qui ont un parcours complètement divers. Hein. On a des gens qui viennent de sécurité publique, des gens qui viennent de PJ comme moi. Hein. C'est assez divers. Ça apporte une richesse aussi importante. Et la sécurité publique, c'est une bonne école. C'est une bonne école. L'école de la rue, le fait de gérer au quotidien des différents ou des mini-crises, ça nous permet d'avoir des gens qui sont... Non pas déjà formés, mais qui en tout cas ont l'habitude de, d'être confronté aux crises et d'essayer de trouver des solutions pacifiques le cas échéant. Donc c'est vraiment intéressant.
D'accord. J'imagine que ça doit être extrêmement différent de négocier avec un forcené, quelqu'un qui a peut-être des troubles psychologiques, ou alors quelqu'un qui est un criminel, enfin du grand banditisme, ou alors carrément du terrorisme. Comment vous êtes capable de switcher de l'un à l'autre comme ça, et comment vous formez pour vous adapter à cette diversité de profils?
Il y a une constatation, c'est que les profils sont divers, mais la façon dont on va s'adresser à eux, ça reste la même. Ça reste la même. On va toujours, parce que c'est notre travail, hein, on va toujours aborder une crise en tant que négociateur avec la volonté d'obtenir une reddition. Même si la situation est compliquée, même si le profil de la personne peut nous faire dire que bon, la reddition est assez improbable, mais pour autant, elle est jamais jugée impossible. Donc on va partir avec la même volonté de sortir la personne. Voilà.
Donc il y aura toujours une phase de négociation, peu importe la situation.
Il y aura toujours une phase de négociation, toujours. Voilà. Et on essaiera toujours de jouer à peu près sur les mêmes ressorts. Voilà.
Sur quoi ? Sur des biais cognitifs, sur des ressorts ?
Non, de façon très simple. Alors, comme à chaque fois, on va essayer d'avoir un contact au départ, de conforter un petit peu ce contact pour qu'il y ait un échange. Et puis si on arrive à monter un échange, et bien après, on verra comment on peut travailler sur peut-être de la confiance, quoi. Mais les étapes ne varient quasiment pas, quoi, quelque part. Et encore une fois, ce qui compte, c'est la volonté de sortir la personne, quel que soit l'acte qu'elle ait commis, quoi. Donc c'est parfois un peu compliqué, mais bon, en tout cas, c'est notre métier, donc on l'a choisi et on essaie de le faire du mieux possible.
C'est un métier qui peut être risqué. Est-ce que il y a certains documentaires en ligne où on voit des négociateurs en train de bosser, et on voit des fois le négociateur passer devant la colonne d'assaut pour parler à la porte avec la personne.
Chez nous, ça n'existe pas, ça. Ouais. Non, on est toujours protégé. Toujours protégé. La dernière inter qu'on a fait vendredi, j'ai toujours été derrière un gars de l'inter et derrière un bouclier. Enfin, c'est pas une difficulté, ça peut en être une, c'est que le négociateur, au sein de la colonne d'intervention, il se place où on lui dit de se placer. Voilà. De façon, bien sûr, à pouvoir parler, hein, parce qu'autrement, ça n'aurait pas grand sens. Mais encore une fois, il n'est pas là pour handicaper l'intervention dans son travail. Donc il y a aussi, de la part du négociateur, ou une réflexion un peu tactique à avoir sur son placement. Et s'il ne l'a pas, bah de toute façon, il écoutera ce que lui dira le chef de colonne ou le chef d'équipe. Quoi. Voilà. Là-dessus, on a des process qui sont bien rodés. Quoi. Moi, je ne vais pas intervenir dans une colonne si je n'ai pas l'aval du chef, si je n'ai pas l'aval du chef de colonne et si le chef d'équipe n'est pas prévenu.
D'accord. Et vous êtes armé pendant l'intervention ?
Oui, on est armé. Ouais. Parce qu'on est policier et on se doit de pouvoir réagir à toutes les situations, quoi.
D'accord. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, enfin un peu partout, on voit d'anciens négociateurs du RAID qui, une fois qu'ils ont quitté l'institution, écrivent des livres, font des conférences, donnent des cours, des workshops, etc. Dans la littérature américaine, il y a beaucoup aussi au FBI, Chris Voss, des choses comme ça. Comment vous percevez ça, vous, et est-ce que ça pose un problème? Est-ce que ça vient complexifier votre tâche, sachant que du coup tous ces savoirs sont dispensés comme ça, un peu dans la nature?
Moi, j'ai pas de vrai avis là-dessus. Je suis assez content que les gens puissent donner de la visibilité au service et à la négo. Moi, de ce que j'ai lu, en tout cas en ce qui concerne les anciens négos du RAID, on ne révèle pas de grands secrets de cuisine, quoi. Donc on n'est plus sur du vécu, sur du ressenti aussi, que sur des vrais traités liés à la négociation en phase de crise. Donc je trouve que ce qu'ils font, c'est pas, encore une fois, là, moi j'ai pas. Je trouve que c'est pas trop mal. Voilà. Honnêtement, c'est pas trop mal. En tout cas, moi, dans mon métier de tous les jours, ça me pose pas énormément de problèmes. Voilà.
Et est-ce qu'il y a des choses qui sont, ça rentre dans le détail, mais est-ce qu'il y a des choses qui, que ces gens s'empêchent de dire parce qu'ils savent que, ben, ils restent forcément patriotes, etc. Ils se disent, il y a des choses qu'il faut pas dire parce que ça pourrait être mal utilisé à mauvais escient.
Ouais, je pense qu'il y a une vraie réflexion sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils disent. Et pour ne rien vous cacher, nous, pour être sûr qu'on partage bien cette même communauté, hein, il nous est arrivé sur des affaires un peu sensibles d'appeler en disant, les gars, si vous pouvez éviter de communiquer sur le truc, c'est bien. Voilà. Et ils l'ont fait. Donc voilà. Non, il y a une vraie, on a une vraie communauté d'idées, je pense. Et vu qu'on est tous des opérationnels, on a tous à cœur, voilà, de pas handicaper, de pas péjorer l'action de l'autre, quoi.
Vous regardez ce qui est fait à l'étranger au niveau de dans les autres services de.
Bien sûr. Nous, on a des gros échanges avec l'étranger. D'une part parce que ça a toujours été une tradition une tradition de partage. Hein. Nous on a toujours été énormément dans le partage au service et parce que c'est aussi une façon d'avancer. Et puis parce que la France malheureusement a été énormément touchée. Donc avec les Britanniques on a été énormément sollicité. Parce que les services étrangers étaient curieux de savoir comment on avait travaillé dans telle ou telle situation. Donc il y a un vrai partage. C'est vraiment intéressant. Après, on est parfois sur des différences culturelles qui sont ce qu'elles sont, quoi.
Mais... Qui sont liées pas forcément aux affaires policières, mais plus vraiment culturelles de...
Culturelles parce que les gens ont une perception assez, en fonction de la situation géopolitique du pays, ils ont une perception assez décalée, en tout cas par rapport à nous, des éventuelles priorités qu'ils doivent affronter.
Et dans la façon d'exercer le métier, est-ce que vous notez de grandes différences majeures entre comment, par exemple, un négociateur du FBI ou d'un service d'un pays de l'Est, justement, va travailler plutôt que, enfin, comme vous, en comparaison de vous.
Nous, on est sur un modèle qu'on appelle intégré, hein, puisque la négociation Nuren, c'est une part, elle fait partie du groupe d'intervention, et donc elle travaille en complémentarité avec les autres entités du service. Les anglo-saxons, c'est assez différent. L'entité négo, généralement, ne fait pas partie du groupe d'intervention. Si vous prenez les Allemands, la négo, c'est le BKA, c'est pas le Geheimdienst. Si vous prenez les Américains, il y a un groupe au FBI, mais qui n'est pas rattaché au HRT. Si on prend New York, le HNT n'est pas rattaché à l'EUSU. Voilà. Donc c'est différence assez notable. Nous, sans se comparer à ce que font les autres, parce que c'est pas vraiment c'est pas notre vrai moteur. On essaie de voir un petit peu ce qui marche et ce qui marche pas. Ce qu'on considère nous être important, c'est que Nego Red, on fait partie du groupe d'intervention. Si ça sonne tout de suite, le groupe d'intervention va s'ébranler et il y aura deux Nego avec lui. Voilà. Donc on va prendre la crise au même moment. Et ça c'est super important. Ça veut dire que contrairement à des groupes étrangers, par exemple, qui ne font pas partie du groupe d'intervention, quand on arrive sur la crise, on a le même niveau d'information. On ne va pas être obligé, si on arrive en retard, de prendre des infos, et on ne va pas connaître la pression d'essayer de se remettre à niveau, quoi. Hein, donc il n'y a pas de course, quelque part, entre l'inter et entre la négo. On a les mêmes sources d'information, le même niveau d'information. Et donc on développe une stratégie qui est une stratégie qui est concertée, quoi. Voilà, en fonction des priorités dessinées par le chef du RAID. Donc ça nous paraît être un avantage certain. Voilà. Et ça nous va bien. Voilà. Vraiment, ça nous va bien. Surtout ce fait que pouvoir partager le même niveau d'information, ça c'est vraiment important. Et puis on sait aussi, le négo du RAID, il sait comment on travaille la tactique du RAID. Donc c'est quand même un plus sur une crise.
On pourra anticiper certaines choses.
On pourra anticiper et surtout on pourra expliquer. on pourra expliquer. Si demain on fait voler un drone sur une crise, et si le sujet s'en étonne, on pourra lui expliquer qu'on fait voler le drone parce que, encore une fois, peut-être qu'il ne nous a pas répondu dans le cadre du contact qu'on essayait d'établir, et que le fait de faire voler un drone, ça nous permet de nous assurer qu'il est en bonne santé, ou quoi, tout simplement il est vivant. Quoi. Voilà. Si ça j'ignore, je peux être un peu sec si on me pose la question. Quoi. Et si c'est le premier contact que j'ai, autant que je ne sois pas trop mauvais. Quoi. Autant que j'arrive à répondre.
Mmh. Et est-ce que ça peut vous arriver de partir en renfort sur une opération sans forcément être dans le cadre du avec une colonne du RAID
On l'a fait un peu pendant le confinement. On s'est mis, c'est une volonté du directeur général, une volonté du chef. Donc on s'est mis au service de la sécurité publique dans le cadre du confinement. On n'a pas eu énormément de sollicitations, mais en tout cas celles qu'on a eues, on les a acceptées, bien sûr. Oui, ça nous est arrivé. Ça vous est arrivé en début d'année à Versailles, là, par exemple, là, sur un vieux monsieur qui menaçait d'attenter à ses joueurs. Et c'est des choses qui font sens.
D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive aussi de faire de la formation en interne auprès de fonctionnaires de police qui vont être amenés à avoir besoin de quelques techniques au quotidien? Ou est-ce qu'eux, ils ont des modules à côté dans leur formation
Alors, on est amené à faire des... c'est plus de l'information que de la formation. Auprès des primo-intervenants sur la négociation. Et quand on le fait, on leur dit, on leur apprend plus, ou en tout cas, on souligne plus ce qu'il ne faut pas faire plutôt que ce qu'il faut faire. Voilà. Parce qu'encore une fois, on ne veut pas non plus que les gens imaginent s'intégrer dans des processus qui sont un peu compliqués, parce que ce qu'on disait en tout début d'entretien, c'est que la négo, ça reste encore une fois de la technique, quoi. De la technique, des objectifs, c'est pas justement, enfin juste de la, juste une conversation, quoi. Voilà. Et donc, on travaille beaucoup avec les primo-intervenants, quoi. Beaucoup avec les primo-intervenants.
Et vous avez des échanges aussi avec d'autres services comme par exemple le GIGN, ou est-ce que eux par exemple fonctionnent différemment, autre que dans la partie doctrine d'emploi, mais plus sur la partie négociation pure, sur les techniques de prise de contact, de...
Là-dessus, nous, moi, je ne vais pas trop vous parler du GI, parce qu'encore une fois, on ne se compare pas trop à eux, et je ne suis pas légitime pour parler de leur façon de travailler. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille avec eux dans le cadre de la cellule interministérielle de négociation. Donc, vous avez les représentants du RAID, les représentants du GIGN, et cette cellule, elle est montée à l'initiative du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Dans le cas où des ressortissants français sont enlevés dans un pays en crise à l'étranger. Voilà. Et à l'occasion de ces CIN, comme on les appelle, hein, les négociateurs, tant du RAID que du GI, travaillent ensemble de façon plutôt bonne, même, voire même très bonne. Voilà. Encore une fois, il y a une vraie communauté, une vraie volonté d'arriver à une solution, et on développe les mêmes techniques. Il faut savoir d'ailleurs que tant le diplôme de négociateur RAID que le diplôme de négociateur au niveau du GIGN, c'est la même certification au niveau européen. D'accord. Et c'est une certification qu'on a bâti ensemble. Donc on se retrouve, voilà, sur en tout cas dans la négociation pure, sur les mêmes process. Après, sur la façon de travailler, là, honnêtement, je peux pas me prononcer, quoi.
Et à titre personnel, vous lisez des livres qui vont parler de négociations, qui vont parler de psychologie humaine, ce genre de choses, pour essayer de vous tenir à jour, ou pour développer de nouvelles techniques, peut-être?
Alors, moi, je suis chef, donc en fin de compte, je fais lire. Voilà. Moi, je demande des fiches de lecture. Non, de façon plus sérieuse, ouais, non, je le fais un peu. Mais je demande plus à mes collaborateurs de le faire, et de nous donner un éclairage particulier sur tel ou tel truc. Moi mon souci, c'est vraiment l'opérationnel pur, on va dire. Donc je m'attache à ce qu'on fasse de façon, dès qu'il y a une intervention, hein, qu'on fasse un débriefing construit, qu'on voit ce qui a marché, bien sûr, ce qui n'a pas marché aussi, surtout, hein, et qu'on essaie d'en tirer des enseignements pour l'avenir. Moi, c'est vraiment ma préoccupation première, moi. Voilà. Voilà.
Est-ce que vous pourriez partager avec nos auditeurs peut-être une ou deux techniques de négociation qui fonctionnent pour déminer une situation de crise avec, je sais pas, au hasard son conjoint ou quelque chose comme ça?
Pas trop. Pas trop. C'est pas un truc comme ça que je pourrais vous sortir comme ça, de façon assez abrupte. Encore une fois, il faut bien se dire une chose, c'est que la négo, c'est pas tellement parler, hein, c'est surtout écouter. Mmh. Voilà. Et alors peut-être si le seul conseil que je pourrais donner, c'est avoir une attitude et une position d'écoute.
Voilà. Bah, c'est un bon conseil.
Voilà. Mmh. C'est peut-être le meilleur que j'aurai à donner.
Est-ce qu'il y a justement un autre conseil que quelqu'un vous a dit quand vous avez commencé et qui vous a servi à plusieurs reprises, peut-être sur différentes interventions, différentes négociations?
Qu'est-ce que des erreurs à pas faire justement?
Ce qu'on m'a toujours dit, c'est qu'il fallait absolument prendre en compte l'élément déclencheur. Donc l'élément déclencheur, c'est parfois quelque chose d'infime, de ridicule, en tout cas pour la personne qui n'est pas concernée au premier chef par la crise. Mais c'est quelque chose qu'on peut vite oublier, parce qu'en fin de compte, on est pris par la configuration de la crise elle-même, par ses caractéristiques. On va se focaliser sur les particularités de cette crise. Alors, est-ce que c'est un forcené, une prise d'otage? Mais il faut tout de suite essayer de revenir un peu à l'envers, remonter le film à l'envers, la bobine à l'envers, et puis essayer de voir là, quel est le petit truc qui a fait que tout a dérapé à un moment ou à un autre. Quoi. Voilà. Ça, c'est quelque chose auquel quelque chose qui est vraiment important, et on peut vite l'oublier, hein, si on se laisse un petit peu si on subit trop la crise, on peut vite l'oublier, cet élément déclencheur.
C'est un autre bon conseil. J'aurais réussi à négocier deux bons conseils avec
comme
vous.
Quoi, voilà, il y a les sélections bientôt, hein.
Parfait, j'en prends note. Pour terminer cet échange, la question que je pose à tous nos invités, est-ce que vous auriez, voilà, pour le coup, un conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans ce métier ou cette spécialité, on va dire, de la négociation? Qu'est-ce que vous direz à cette personne?
De continuer à travailler. Enfin, encore une fois, notre vivier, hein, voilà, c'est les gens qui au quotidien gèrent des crises de plus ou moins grande importance. Hein. Avec pas mal de bonheur, donc voilà, qui continue à faire ça et qui se présente un jour si l'opportunité d'avoir un poste se présente, et qu'ils essaient d'entretenir un petit peu ce côté empathique, mais en comprenant bien aussi que voilà, c'est la négociation, encore une fois, c'est ça reste aussi beaucoup de techniques et à chaque fois des objectifs. Voilà. On prend pas contact avec une personne juste parce qu'on a envie de prendre contact. On rappelle pas une personne juste parce qu'on a envie de la rappeler. On prend contact dans un contexte qui est donné, avec des priorités données par le chef d'inter, proposées souvent par nous. Mais en tout cas, à chaque fois, on essaie d'avoir un acte à peu près pensé.
Voilà. D'accord. Ben, merci pour cet échange.
Non, mais c'est moi qui vous remercie.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier, disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.